France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
L'archéologie mérovingienne vient de perdre l'un de ses plus éminents représentants. L'archéologue Patrick Perrin s'est éteint le 16 février 2026. Originaire des Ardennes, une région qui a servi de socle à sa pratique archéologique, il a largement contribué au développement de nos connaissances sur cette époque du Haut Moyen-Âge encore trop méconnue. Enseignant à l'École pratique des hautes études, puis à la Sorbonne, président de l'Association française d'archéologie mérovingienne et enfin directeur du musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, Patrick Perrin était un infatigable arpenteur de ces royautés dites barbares qui ont vu naître et périr des souverains et souveraines aux noms fleuris comme celui de la reine Arégonde. Quel nouveau visage Patrick Perrin a-t-il donné à ces dynasties mérovingiennes? Comment a-t-il œuvré au décloisonnement de la pratique archéologique? Et quelle importance accordait-il aux institutions qui servent de point d'ancrage au partage des connaissances avec le grand public? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux de ses élèves. Nous sommes en ligne avec Edith Petremann. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes professeur d'archéologie médiévale à l'Université de Tours et vous êtes coprésidente de l'Association française d'archéologie mérovingienne, une association dont Patrick Perrin a été l'un des cofondateurs en 1979. Et nous sommes également en studio avec Jean Soula. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, ingénieur d'études au laboratoire Landarc. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et merci de venir rendre hommage ici à l'un des plus ardents défenseurs en France de cette archéologie mérovingienne. Pour commencer cette émission en hommage à Patrick Perrin, j'aimerais vous faire entendre sa voix. En 1980, il parlait dans l'émission Esquisses et portraits sur RFI de fouilles qu'il réalisait à Montmartre, dans des conditions, vous allez l'entendre, un petit peu particulières.
En ce qui concerne les recherches, il y avait également trois buts préalables, trois buts que nous étions fixés en fonction des travaux effectués depuis le siècle dernier, des travaux archéologiques sur la butte Montmartre. D'une part, retrouver des vestiges romains. Deuxième thème de recherche, c'était continuer l'exploration de la nécropole mérovingienne. Et enfin, retrouver des vestiges de l'abbaye de Bénédictine qui a été fondée par Louis VI le Gros et sa femme, la reine Adélaïde, au milieu du XIIe siècle, abbaye détruite à la Révolution. Et tout le travail s'est fait à la main. Et avec également un impératif qui peut sembler curieux, c'est que nous sommes obligés chaque année de remettre le terrain en état pour le mois de juin, car la paroisse de Montmartre fait une kermesse qui lui rapporte pas mal d'argent. Et donc, nous sommes obligés de programmer la fouille en fonction de cette kermesse. C'est très gênant parce que dans des conditions normales, notamment dans certains pays étrangers, en 6 mois, avec des moyens normaux, nous aurions pu faire toute la fouille. Or là, actuellement, nous y sommes depuis 1975. Et donc, chaque année, nous faisons un programme assez précis. Quelquefois, nous arrivons d'ailleurs à remplir notre contrat, c'est-à-dire à explorer ce que nous avons implanté comme zone de fouille. Et d'autres années, comme cette année, nous n'arrivons pas à faire tout le programme qui était prévu.
Jean Soula, j'ai pas pu m'empêcher de passer cette archive parce que je la trouve vraiment très drôle. J'imagine les Shadocks qui étaient ces archéologues dont faisait partie Patrick Perrin, boucher, reboucher des trous parce qu'il y avait la kermesse de la paroisse de Montmartre. On entend vraiment de l'humour dans ce propos et aussi une envie de fouiller qu'il avait.
Oui, c'était assez caractéristique de Patrick Perrin d'être tout à la fois sérieux et toujours plein de boutades, de blagues sur les situations cocasses qu'il pouvait avoir durant sa carrière, au début de sa carrière. Donc c'est émouvant de l'entendre avec cette voix un peu qui a changé. Moi, je l'ai connu sur les 20 dernières années, donc c'était bien différent. Et on reconnaît bien son style, en tout cas. Je pense que Edith Petremann dira la même chose de ce qu'elle vient d'écouter.
Edith Petremann, vous retrouvez le Patrick Perrin que vous avez connu aussi dans cette archive qui date de 1980?
Oui, c'est tout à fait Patrick. Il y a plein d'humour, notamment avec cette histoire de kermesse. Mais il y a aussi tout le sérieux du scientifique qui expose très clairement ses problématiques, qui montre qu'il connaît tout à fait aussi ce qui se passe à l'étranger pour comparer justement avec le côté un petit peu décousu de ce qu'il vit en tant qu'archéologue en France et notamment à Paris.
À cette époque, Patrick Perrin était déjà un archéologue confirmé. Est-ce que, Edith Petremann, vous pourriez nous raconter comment s'est formé cet archéologue-là? Je parlais des Ardennes comme une espèce de berceau, de bastion pour sa pratique archéologique. C'était une archéologie de quel type qu'on pratiquait à cette époque-là?
Alors, si on se resitue, on est dans les années 1960. Au niveau État, il y a encore une organisation qui est plutôt orientée sur des fouilles d'archéologie, on va dire, programmées, qui sont menées soit par quelques universitaires, soit par des associatifs ou des gens du CNRS. Et donc, la formation de Patrick, c'est dans son territoire, les Ardennes, où là, il y a toute une équipe d'archéologues bénévoles. Je pense notamment à Jean-Pierre Léman. Enfin, ils sont toute un groupe et notamment qui fouillent des nécropoles mérovingiennes. Donc ça, c'est la formation de terrain. Et parallèlement, il a suivi, j'irais, un cursus plus classique pour aboutir à la rédaction d'une thèse de doctorat en 1970 sous la direction de Michel Fleury.
Il y a des travaux de fouilles, donc on le dit, à cette époque-là, l'INRAP et l'archéologie préventive n'est pas du tout une norme. Vous évoquez donc ces travaux de fouilles conduits avec des passionnés, puis ce travail de recherche, l'enseignement aussi qui arrive assez vite à l'école pratique des hautes études. Vous parlez de cette thèse, Edith Petremann. Avant qu'on parle de la thèse de Patrick Perrin, j'aimerais, Jean Soula, qu'on fasse un petit panorama de ce qu'était l'archéologie mérovingienne à cette époque-là. C'est pas une archéologie la plus célèbre, c'était une archéologie même assez marginale à cette époque-là. Comment expliquer cette marginalité? Et quel était le statut des mérovingiens dans l'imaginaire des scientifiques et des archéologues à cette époque?
Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que cette archéologie mérovingienne fait partie en fait d'une entité qui est l'archéologie médiévale. Déjà à l'époque, on va dire pas très popularisée dans les milieux universitaires, scientifiques et académiques. Hein. Patrick Perrin, d'autres comme Joël Burnouf, Pierre-Jean Trambetta aussi pour la partie médiévale moderne. Tous ces archéologues-là des années 70-80 ont vraiment servi la France par la science et ses recherches universitaires qui était peu développé et pas populaire, alors que à l'étranger, par exemple en Angleterre ou en Allemagne, c'était beaucoup plus popularisé. Et on se sert encore aujourd'hui des travaux qui se sont déroulés à l'étranger, notamment en Angleterre ou en Allemagne, mais même aussi ailleurs en Europe. Et donc c'est ces personnalités-là qui ont marqué, vraiment forgé cette archéologie médiévale et cette archéologie mérovingienne, qui ont créé l'héritage qu'on a aujourd'hui. Et pour répondre à la deuxième question, c'est vrai qu'on avait une imagerie très, très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Et cette archéologie funéraire mérovingienne, puisque c'est passé d'abord par là, avec l'étude des sépultures, des nécropoles mérovingiennes, des objets, et là, c'était le fer de lance de Patrick Perrin, et puis de tout ce qu'il a inculqué au niveau universitaire, ça a permis de changer complètement le paradigme qu'on avait de la connaissance de cette société mérovingienne, dit des Dark Ages, comme on dit donc outre-Manche, les âges sombres, le premier Moyen-Âge, voilà, avec ses qualités et ses nombreux défauts, qui a replongé la France, la Gaule mérovingienne, dans une espèce de d'âge très différent de ce qu'elle avait connu avec les Gallo-Romains et la Rome antique, évidemment. Et donc, ça a apporté, finalement, et notamment à travers les études d'objets, puisque ces objets dont on va parler, mais qui amènent évidemment toute une finesse à travers leur ornementation, leur décoration et les liens, évidemment, avec des contrées très lointaines, vont montrer qu'on n'est pas simplement sur des populations guerrières ou en tout cas très ruralisées, mais aussi en connexion avec le reste du monde au 5e, 8e siècle, parce que, rappelons-le, l'archéologie mérovingienne, la période mérovingienne, hein, c'est la fin de l'Antiquité tardive, hein, donc transition deuxième moitié du 5e siècle jusqu'au début du 8e siècle, avant la période dite carolingienne, qui fait partie de ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge ou Premier Moyen-Âge pour certains.
Edith Petremann, on en vient à la façon dont Patrick Perrin a renouvelé cette archéologie mérovingienne qui était marginale, je le disais, en France à cette époque-là. Vous évoquiez tout à l'heure son travail de thèse. Comment a-t-il mis, d'une certaine façon, les mains dans le cambouis et inventé, réinventé l'archéologie mérovingienne?
Et comme vient de le souligner Jean, il y avait cette archéologie mérovingienne était principalement basée sur les objets découverts dans les sépultures. Et quand je dis basée, c'est-à-dire qu'on ignorait les humains, les squelettes, etc. Et justement, il y avait toute une idée de, à partir de ces objets, on imaginait que c'était pour tout le monde. Et Patrick, avec tout un corpus important et Également, en s'inspirant des travaux qui ont été réalisés en Allemagne, on avait déjà commencé à les classer pour essayer de construire une chronologie en s'appuyant sur la forme des objets. À partir de ces bases, il a essayé de préciser cette datation, et c'est là aussi ce qui a été extrêmement important, c'est qu'il a utilisé une méthode, cette ouverture scientifique, donc une méthode graphique qui s'appelle la permutation matricielle, donc qui était sur des tiges et des dominos, et qui permettait de classer et de rapprocher justement en fonction de ces types d'objets. Et puis, en travaillant après avec ce que nous, on appelle des éléments de datation dits. Datation qui proviennent du bois, et pour arriver à préciser des grandes étapes de développement de cette culture mérovingienne, puisque c'est une culture particulière qui est vraiment liée à cette période.
Jean Soula,
pas spécialement lié à une ethnie.
Jean Soula, sur ces apports méthodologiques qu'on doit à Patrick Perrin, qui ont contribué à en faire l'un des moteurs d'une nouvelle école d'archéologie mérovingienne en France.
Oui, ben c'est vrai que la datation des sépultures a permis aussi un focus sur cette archéologie mérovingienne qui était méconnue, et ça a permis derrière d'avoir des étudiants et des jeunes chercheurs qui vont travailler sur d'autres aspects aussi de cette société mérovingienne, et dite en premier notamment, puisqu'elle a travaillé sur l'habitat rural, et donc avec cet enrichissement des connaissances sur la typologie des objets qui sont déposés dans les tombes, donc qui est une archéologie des morts, on va pouvoir travailler ensuite sur l'archéologie des vivants, et donc sur le quotidien de ces mérovingiens, de cette culture matérielle mérovingienne, qui est d'ailleurs beaucoup plus poreuse, entre guillemets, dans les habitats ruraux, puisqu'on a moins d'objets que dans les tombes, mais on va pouvoir faire le lien entre l'habitat rural, et puis aussi certains éléments dans les villes, dans les centres urbains, plus rarement, mais également, bien sûr, dans les sépultures, et créer cette nouvelle chronologie qui va permettre vraiment d'asseoir cette société mérovingienne avec ses divers aspects. Il ne faut pas oublier évidemment aussi l'archéologie religieuse paléo-chrétienne, avec le développement aussi de nombreuses fouilles, puisque tout ceci, au moment où Patrick développe cette permutation matricielle, et avec notamment René Legout, il faut le citer.
Bien sûr. Qui informatise finalement.
Qui informatise le côté très normé de cette schématisation mathématique et statistique. Eh bien, tout cela va amener aussi du courant au développement de cette archéologie programmée, puis ensuite de sauvetage. Et donc, on va avoir tout ce qui va se développer et amener énormément de données pour la meilleure connaissance de cette période.
Edith Petremann, on sent que Patrick Perrin était donc un rénovateur dans la méthodologie de fouille de cette période mérovingienne. En 1971, Gilbert Robert Delahaye disait qu'il y avait eu un événement dans l'histoire de l'archéologie mérovingienne. C'est la création d'un enseignement animé par Patrick Perrin à l'École pratique des hautes études d'archéologie mérovingienne. Cet enseignement, c'est l'un des piliers vraiment du parcours archéologique, scientifique, intellectuel de Patrick Perrin. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'importance finalement qu'il accordait à cet enseignement ?
Alors, cet enseignement, déjà, je pense qu'il faut vraiment resituer. Finalement, c'était le premier enseignement en France sur cette archéologie mérovingienne. C'est-à-dire qu'elle n'était pas, à cette époque, enseignée dans les universités. Donc, il y avait un manque. L'archéologie médiévale commençait tout juste, de manière plus générale, à apparaître comme enseignement et avoir ses droits de noblesse, si je puis me permettre. Et donc, en créant ce cours, cet atelier d'enseignement qui permettait d'échanger des expériences, d'essayer justement de pouvoir d'appliquer des règles aussi bien pour les fouilleurs que pour l'analyse, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement novateur, et ça a permis aussi à tous ces bénévoles d'engranger quand même un bagage pour pouvoir poursuivre de la manière la plus scientifique possible leurs investigations. Et Patrick, effectivement, dans son travail, s'est toujours aussi questionné sur la signification de l'objet dans la tombe. Et ça, c'était très important. C'est lui qui a commencé à se demander, mais est-ce que l'objet que je trouve dans les tombes est le reflet exact ou déformé d'une réalité sociale ? On le retrouve dans un certain nombre de ses articles, mais en posant ces questions et en les développant avec tous ces étudiants qui sont pour la plupart devenus des amis, qui ont, on en parlera probablement, hein, qui sont à l'origine de la création de l'Association française d'archéologie mérovingienne, ce cours a été vraiment fondamental. Et puis par la suite, il a poursuivi cet enseignement, soit en chargé de cours, dans, aussi bien à Paris 4 qu'à Paris 1, soit après en professeur associé. Et là, il a vraiment, je dirais, formé des générations et des générations d'étudiants. Quoi.
Oui, ces années 70, bon, finalement, ont été une année, des années d'émulation qui ont abouti à cette création de l'Association française d'archéologie mérovingienne. C'est l'un des élèves de Patrick Perrin, José Ajot, qui l'a sollicité, qui l'a pris par la manche et qui lui a dit « Tu veux pas créer une association ?» Eh ben, je vous propose d'écouter justement Patrick Perrin parler de la genèse de cette association. C'était en 1989, chez l'ami Vincent Charpentier, dans l'émission archéologique sur France Culture.
Pratiquement, quand nous avons fondé l'association en 1979, à part une ou deux universités, il n'y avait aucun enseignement de l'archéologie de cette période. C'est un grand vide qui reprend comme 4 siècles. Et à côté de ça, de nombreux archéologues fouillant des nécropoles mérovingiennes, puisqu'à l'époque, c'était surtout la fouille des tombes qui intéressait les chercheurs, puisqu'il y a de plus spectaculaire. Depuis, ça a beaucoup changé, puisqu'on fouille les églises, les habitats, etc. Donc il y avait incontestablement un besoin d'information. Et d'autre part, il est évident que cette période ne concerne pas du tout que la France ou même la Gaule. Elle concerne, avec les mêmes problèmes, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, hein. Les Anglo-Saxons, les Visigoths, les Alamans, les Burgondes, même combat. Donc il était intéressant de faire profiter des expériences extérieures des chercheurs français, d'où finalement, très naturellement, ce lieu de rencontre qu'est ce congrès annuel, avec toujours une double dimension, une dimension régionale, c'est fondamental en France. Donc quand le congrès vient par exemple à Rennes, il y a une partie du congrès consacrée à l'archéologie du Moyen-Âge de la Bretagne. Et il y a quelques années, c'est une révélation pour ceux qui étaient venus. Il y a une archéologie du Moyen-Âge en Bretagne, extrêmement dynamique, avec des fouilles de monastères, des choses que personne ne soupçonnait, sauf les Bretons. Bon, désormais, tout le monde le sait. Et puis, alors, un deuxième aspect assez colloque, c'est un thème très général qui concerne toute l'Europe occidentale. Cette année, par exemple, l'année dernière, au colloque de Metz, c'était l'art animalier dit germanique.
Jean Soula, c'est crucial cette association pour vous en tant que jeune chercheur. Je crois que c'était l'un des endroits où vous avez fait votre première communication autour de cette archéologie mérovingienne. Quel esprit animait et continue d'animer ce lieu-là particulier d'échange entre archéologues spécialistes de l'époque mérovingienne?
Ben, la FAM, donc l'Association française d'archéologie mérovingienne, en effet, c'est un peu le tremplin, et Edith me contredira pas, pour les jeunes chercheurs. Et c'était ce qui faisait vraiment vraiment la singularité de cette association. C'est toujours ce qui se passe d'ailleurs. Bon, pour parler de moi deux minutes, c'est vrai que j'ai été à cette place-là en 2006 à Caen, voilà, pour les journées mérovingiennes de Caen, et c'est la première fois que j'ai pu communiquer sur une thématique qui était un sujet d'étude en master sur les Anglo-Saxons, etc. Et c'était à double tranchant, parce que vous parlez de vos recherches en cours, vous êtes évidemment spécialiste de vos sujets sans l'être, et en même temps vous êtes devant vos pairs, les plus grands spécialistes du sujet et notamment de la période en France, donc c'est assez particulier comme ambiance. Et en même temps, après, comme certains disaient, et notamment pour citer Claude Lorraine, donc professeur d'histoire et d'archéologie à l'université de Caen, il disait à l'époque on reconnaît un bon colloque de la femme à son buffet. Voilà, et c'était ça aussi qui faisait la magie de cette, et qui continue à l'être d'ailleurs, cette Association française d'archéologie mérovingienne, c'est la convivialité et la proximité qu'on pouvait avoir avec les chercheurs confirmés. Et Patrick Perrin incarnait à merveille cette association et cette dynamique.
Oudit Petreman, on se rend compte de l'originalité qu'avait finalement cette association dans le paysage archéologique. Et on voit aussi la volonté, on entendait dans le propos de Patrick Perrin, cette volonté d'élargir aux autres pays, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre. Ça, c'est quelque chose aussi qui était assez nouveau pour ce moment-là, dans ces années 80, au début des années 80, de vouloir créer cette association à vocation assez spécialiste, on va dire.
Tout à fait, parce que bon, au tout départ, c'était une association nationale et dès 1986, en fait, les journées sont devenues des journées internationales. Avec cette ouverture, on retrouve toujours, mais comme il le dit si bien, et je trouve ça succulent dans l'extrait d'interview que vous avez qui a été passé, c'est voilà, à la main, en Bourgon, franc, même combat. Mmh. Mais c'est ce qu'on retrouve en fait avec cette ouverture à l'international et plus particulièrement au niveau européen, et qui est resté très très fort. Et les chercheurs venaient à la FAM parce que justement ils pouvaient rencontrer, il y avait cette bienveillance, qu'on parle pas bien le français ou qu'on parle dans sa langue, il n'y avait pas de critique, on était vraiment là pour partager des informations, et c'est ce qui a fait, je pense, le succès de la FAM, et puis cette ouverture, bien évidemment, à la jeunesse. Mmh. Et tout comme Jean, voilà, on est extrêmement nombreux à avoir donné notre première communication à la FAM, et tout comme les bénévoles qui pouvaient venir présenter leurs travaux. Et après, il y a eu cette ouverture. Eh ben, un monde qui était professionnel, qui était en train de changer. Donc, à côté des universitaires ou des collègues des CNRS, on a vu apparaître tous les collègues qui travaillaient en archéologie préventive. Donc, Patrick a toujours été moteur de suivre ce qui se passait en archéologie, ouvrir au maximum et faire qu'il y ait des échanges. Et donc, évidemment, ça constituait un réseau formidable pour pouvoir travailler.
Patrick Perrin avait beaucoup de casquettes, donc il a été président de cette association française d'archéologie mérovingienne de 1982 à 2014. Il était bien sûr enseignant, chercheur, et il a été aussi conservateur au musée Carnavalet de 71 à 84, conservateur du musée des Antiquités de la Seine-Maritime de 84 à 96, et enfin directeur du musée des Antiquités Nationales, comme on l'appelait alors, et c'est un nom qui a changé en 2005 sous sa direction pour devenir musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Jean Soula, ça aussi c'était une dimension importante de son travail d'archéologue, c'était de relayer ses découvertes et de réactualiser ses découvertes dans ces espaces institutionnels.
Espace institutionnel et espace de valorisation. Mmh. Et donc dans ces musées là où il passait, que ce soit à Carnavalet où il a marqué très fortement de son empreinte, notamment avec la publication des recherches qu'il a menées à Paris à l'époque de Montmartre et autres, et puis bien sûr au musée des Antiquités de Rouen et in fine à Saint-Germain, le Mérovingien était présent partout. Et on en parlait justement, c'était une période où il s'est servi finalement de ces outils de valorisation pour mettre en avant une période chronologique en archéologie qui était peu connue. Mmh. Quel génie, finalement, parce que ces espaces étaient populaires, le sont toujours, et permettaient au jeune public, notamment aux scolaires, il ne faut pas l'oublier, que y a cette transmission qui s'effectue à travers de grands noms de la période mérovingienne. Évidemment, Clovis, moi j'ai mon fiston qui me parle tout le temps du vase de Soissons, voilà, qui connaît cette histoire-là, mais il n'y a pas que ça. Et donc, à travers les objets qui peuvent être exposés dans les musées, et dans ces grands musées de France, de Parisiens, mais aussi de province, c'est important, eh bien, on retrouve cette culture matérielle mérovingienne qui parle de plus en plus aux gens à l'époque, et qui va être un outil très important aussi pour les étudiants qui vont venir travailler, notamment consulter les ouvrages de la bibliothèque de Saint-Germain. On a été nombreux à fouler cette bibliothèque très riche, une des plus riches d'ailleurs en France, voire en Europe.
Mmh. Ben, je vous invite à aller voir cette bibliothèque si vous vous intéressez à l'archéologie mérovingienne. Vous le disiez, il s'est servi finalement de ces espaces institutionnels pour mieux faire connaître l'archéologie mérovingienne, et en 2009, le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye consacrait justement une exposition entière à un trésor un peu particulier dans les recherches de Patrick Perrin, le trésor de la reine Arégonde, épouse de Clotaire Ier, qui était le fils de Clovis. À cette occasion, Patrick Perrin était venu en parler dans le Salon Noir de Vincent Charpentier.
Arrigonde, sur les dessins anciens, on voit qu'elle a une sorte de voile de nurse blanc. Or, en fait, maintenant, on est sûr qu'elle a un voile en sami de soie, donc ces tissus réversibles qu'on trouve dans tous les souks du Proche-Orient ou qu'on fabrique encore en Asie, de manière industrielle. Donc, un voile très lourd, dont on ne connaît pas les motifs, mais qui est à couleur jaune et rouge réversible. Donc ça, c'est un voile qui descendait jusqu'aux genoux. Donc, il faut imaginer une mode extrêmement influencée par l'Orient, ce qui était le cas déjà des femmes du monde byzantin. Il faut savoir que dans cette fin du VIe siècle ou au VIIe siècle, l'Occident et les cours royales sont fascinés par l'Orient, qu'ils connaissent par des récits de voyageurs. Cosma Aniklopestes, fin du VIe siècle, ce voyageur va à Ceylan, va en Inde, il rentre, il raconte ce qui se passe et, ça, et ces informations circulent. Et en même temps circulent tous ces tissus précieux, ces baumes, ces cuirs, cette offre précieuse et bien d'autres choses.
Et ces grenats, justement. Les grenats donc, sur lesquels vous avez lancé aussi un programme. Vous avez réussi à déterminer les origines de ces pierres fines.
Mais avec Thomas Caligaro...
Qui sont très à la mode. À l'époque,
Oui, Thomas Caligaro, qui est l'ingénieur de recherche qui a fait les analyses. Maintenant, auparavant, on connaissait trois groupes de grenats, riches en fer, pauvres en fer et intermédiaires. Et maintenant, nous sommes passés à cinq types de grenats, pas un de plus. Donc, deux des types riches en fer, qui sont des Allemandins, viennent d'Inde. L'un, l'Andhra Pradesh, l'autre, le Rajasthan. Le troisième groupe vient du Sri Lanka. Et puis après, on a deux groupes, l'un non identifié, mais l'autre qui provient donc de Bohême. Et comme il a s'associé toujours avec l'autre groupe, on pense que le groupe inconnu vient de ces régions. Alors c'est un progrès important, surtout qu'on a pu confirmer la rupture d'approvisionnement de l'Occident vers 600 en grenat asiatique, en grenat indien ou sri-lankais, ce qui pose un problème puisque d'autres gemmes comme les améthystes ou d'autres produits exotiques continuent d'arriver par l'océan Indien, la mer Rouge. Donc les indianistes consultés n'expliquent pas un peu la situation puisqu'il n'y a pas de troupes politiques majeures en Inde, mais il se trouve qu'il y a une rupture d'approvisionnement de ces grands grenats et les grenats européens n'arriveront pas à remplacer les grenats asiatiques parce qu'ils se débitent en pierres de toute petite taille. Donc le cloisonné, c'est-à-dire ce réseau couvrant de gemmes, va disparaître au profit de pierres montées en boîtier très vite au cours du 7e siècle.
Edith Petremann, on a choisi ce long extrait pour conclure l'émission, puisqu'on arrive bientôt dans une minute à la fin de cet entretien archéologique, pour montrer l'un des plus beaux travaux finalement de Patrick Perrin dans sa bibliographie pléthorique, cette étude des grenats qui décloisonne finalement les horizons des mérovingiens eux-mêmes.
Ah ben ça a été, une preuve, s'il en fallait, de montrer effectivement que les mérovingiens étaient en contact avec un monde très vaste et que justement c'est une culture où on peut aller faire des échanges sur de très longues distances tout en restant cloisonné également dans son petit milieu. Donc il y avait ce contraste. Alors évidemment, ce sont plutôt les milieux autour de la cour royale qui ont accès à ces produits venant de loin, mais ça remettait vraiment... ça permettait de suivre ces trajets, ces échanges et comment ça se passait d'une cour à l'autre. Mmh. Et puis après, d'un point de vue scientifique, effectivement, avec l'aide de Thomas Caligaro, ça a vraiment été un programme assez incroyable qui nous a été envié par les Allemands et qui permet donc justement de suivre ces notions de fabrication, d'échange. Et donc les grenats et puis je dirais plus largement également tout le travail autour de la basilique Saint-Denis et en particulier de la sépulture d'Arrigonde.
Et on retiendra bien sûr que Patrick Perrin a ouvert les frontières de cette archéologie mérovingienne. Merci beaucoup Edith Petremann et Jean Soula d'être venus rendre cet hommage à Patrick Perrin qui nous a quittés. Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.